Chapitre 22. La première grande affaire du moufti Barofil le 25e, ce fut son élection. Aucun des 5000 cardinaux de l'église du Kreuz n'avait songé au cardinal fasciste Bog pour prendre la succession du moufti Barofil le 24e, surnommé après sa mort le tyran de Vénitia. Et pourtant, à la surprise générale, l'ancien gouverneur d'Ugen fut élu par 2602 voix contre 2398 au 7e tour de scrutin. Le drapeau blanc fut alors hissé sur la plus haute des tours du palais épiscopal pour annoncer aux fidèles que les cardinaux s'étaient choisis un nouveau souverain pontife. Personne ne soupçonna le haut vicariat d'avoir falsifié le dépouillement du scrutin. Les Syracusains furent horrifiés d'apprendre que le chef suprême de l'Église n'était pas un des leurs, mais un marquinatin, un paritole, et ils exprimèrent leur désapprobation en se regroupant silencieusement dans les avenues de la cité impériale. Fasciste Bog prit le nom de Barofil le 25e, en hommage à son illustre prédécesseur. Il n'y eut pas de fête pour célébrer son avènement, car Menati Imperator exigea que débute immédiatement le procès de Dame Sibrite, son épouse disparue depuis plus de 3 mois syracusains. L'empereur avait en effet jeté son dévolu sur Dame Anit Passit Pahir, une jeune courtisane, l'une des égéries du mouvement clandestin Machama, qui s'était depuis publiquement repenti. Menati Imperator brisa les fiançailles de Damanit avec Aymar Singal, le responsable de la maintenance technique du palais épiscopal. Le jeune Singal s'inclina devant la volonté de son souverain, d'autant plus volontiers qu'un implant d'effacement lui fit oublier jusqu'au souvenir de la jeune femme. Cependant, les cardinaux battus se regroupèrent entre eux et complotèrent contre le nouveau moufti. Mais ils ne parvinrent pas à l'assassiner, car il bénéficia sans réserve des services mis en place par son prédécesseur, garde du corps, système de détection, morphopsychologue, cuisinier et serviteur dévoué. La deuxième grande affaire du moufti Barofil le 25e fut donc le procès de Dame Sibrite, qu'il présida lui-même en gage d'une collaboration sans faille entre les pouvoirs spirituels et temporels de l'Angempire. Au 4e jour du procès, il se passa un événement peu banal. Dame Sibrite parut en personne devant ses juges. J'étais installé dans l'une des travées qui dominait l'allée centrale, et je la vis s'avancer, altière, la tête et les pieds nus, les cheveux dénoués. Sa beauté m'émerveilla. Son apparition déclencha un irrespirable silence. Elle fit face à ses détracteurs et réfuta une à une les accusations d'abomination qu'ils portèrent contre elle. Les témoins à charge, des grands courtisans pour la plupart, se contredirent à de nombreuses reprises et de manière flagrante. La seule qui prit sa défense fut son ancienne dame de compagnie, Dame Alakaïte de Flel. Je devinais que Barofil le 25e éprouvait de la sympathie pour l'impératrice, cette femme fière et libre. Mais il ne put, ou ne voulut, intervenir pour infléchir la sentence qu'on lut à la coupable, sans qu'une ombre de peur ou de remords ne glisse sur son magnifique visage. Elle fut condamnée au supplice de la croix de feu à combustion lente. Elle fut exposée, nue, sur la place principale de Rome Antigua. Elle agonisa pendant 10 jours dans d'atroces souffrances. Le moufti gracia à titre personnel Dame Alakaïte de Flel, qui fut exilée sur le satellite Julius et dont nul n'entendit plus jamais parler. La troisième grande affaire du moufti Barofil le 25e fut le mariage de Menati Imperator et de Dame Anit Passit Pahir. 10 jours pleins de fêtes furent décrétés sur tous les mondes de Langempire, qui purent suivre la cérémonie sur les écrans-bulles publics de l'HO, l'Holovision officielle. Le souverain pontife ne laissa à personne d'autre le soin de conduire l'office religieux qui dura plus de 5 heures. En dépit du passé sulfureux de la nouvelle impératrice, ce mariage combla les grandes familles syracusaines, les douairières, les maîtres du protocole et la population vénitienne. Ils avaient éliminé la provinciale, la gourgandine, et ils se retrouvaient enfin entre eux, entre gens de bonne compagnie, entre maîtres du contrôle des émotions. Dame Anite accepta spontanément qu'on prélevât ses ovules, lesquels, fécondés par les spermatozoïdes sélectionnés de l'empereur, donneraient un ou plusieurs héritiers à Langempire. Personnellement, je trouvais la nouvelle première dame de l'univers moins belle et moins intéressante que l'ancienne, mais je n'étais qu'un jeune exarque au service du souverain pontife et mon avis n'était qu'un pet de mouche dans la puanteur d'une fosse excrémentielle. La quatrième grande affaire de Barophile le 25e fut l'anéantissement de Jérusalem, le satellite glacé de la planète Franzia. Certains cardinaux, voyant qu'ils rencontreraient les pires difficultés à attenter à la vie du moufti, le défièrent sur un autre terrain. Ils réclamèrent à corps et à cri l'extermination du peuple élu, coupable à leurs yeux d'hérésie. Le moufti autorisa donc la destruction de Jérusalem par désintégration lumineuse. Cette explosion provoqua de terribles catastrophes sur les mondes environnants. Bien plus tard, je compris que le moufti avait sacrifié ses 140 000 vies dans l'idée d'en épargner des milliards d'autres. C'est à cette époque-là qu'il entreprit de rédiger ses mémoires mentales, mémoires qu'il soumit à l'approbation du sénéchal Arcot, du haut vicariat et de Menati Imperator. Je me doutais que cet ouvrage ne correspondait pas au fond de sa pensée. Mais j'ignorais comment il préservait son esprit des inquisitions mentales qui se multipliaient autour de lui. Il semblait être guidé par une voix intérieure, voix dont l'origine me fut révélée des années plus tard. Il obtint du sénéchal Arcot que les corps congelés d'Afikit Alexou, que les gens du peuple surnommaient Nayafikit, de sa fille Yel, d'un homme et d'une femme gersalémine, fussent exposés dans une salle secrète du palais épiscopal. Il allait souvent se recueillir devant les sarcophages transparents qui renfermaient ces femmes, cette fillette et cet homme, tous aussi beaux que des anges. La beauté du diable. Il prétendait qu'il désirait avoir en permanence sous les yeux ses ennemis ultimes de la foi, pour ne point succomber à la tentation de la mansuétude. Je savais qu'il n'en était rien, qu'il cherchait à percer leur mystère, et que sa voix intérieure le poussait dans ce sens. La cinquième grande affaire de Barophile le 25e fut la mise en place des offices généraux d'effacement, au début de l'an 17. À cette occasion, il collabora étroitement avec le sénéchal Arcot. Mais je crois qu'il prépara surtout la venue de ceux qui allaient bouleverser le monde. Adaman Moural, exarque du palais épiscopal de Vénitia. Chronique secrète du règne du moufti Barophile le 25e. Assis en tailleur devant le buisson aux fleurs lumineuses, Jacques percevait l'horrible bruit du blouf, qui, seconde après seconde, dévorait les étoiles par milliers. Il ressentait dans sa chair même l'agonie de l'univers. Nayafikit n'avait pas eu le temps de lui apprendre à voyager sur ses pensées. Il n'était pas un guerrier du silence, et devant la catastrophe, il se sentait terriblement impuissant. Arthrarak n'avait pas prévu que le Blouf réussirait à neutraliser les êtres de légende qui portaient les derniers espoirs des humanités. Il n'avait pas eu le temps de faire connaissance avec Yel. C'était une petite peste, mais il était amoureux d'elle. Pourquoi le monstre l'avait-il cryogénisée? Que voulait-il faire de son petit corps gelé là-bas, sur Syracusa? Il aurait tant voulu voler à son secours comme un chevalier de l'espace, mais il ne disposait d'aucun moyen de transport, pas même de ses pensées. L'aube se levait et la nuit battait en retraite, semant des traînes d'obscurité dans son sillage. Bientôt il n'y aurait ni jour ni nuit, rien d'autre que le vide. Le fruit sec qu'il grignotait du bout des dents avait un goût amer. Soudain, un rayon d'une clarté aveuglante se détacha de la voûte céleste et se posa sur le buisson. Le soleil pourtant n'avait pas encore paru. Jack leva la tête et aperçut une silhouette auréolée de lumière qui marchait sur le rayon. Lorsque ses yeux se furent accoutumés à la luminosité, il distingua un homme aux cheveux bruns et ondulés, vêtu d'une tunique brillante à demi déchirée, d'un pantalon bouffant noir et de sandales. Le petit Andjorien crut d'abord qu'un dieu en haillons descendait du ciel pour lui rendre visite. Le dieu s'immobilisa 2 mètres au-dessus du sol et semblait s'être penché sur le buisson. La lumière n'était pas extérieure à lui, mais jaillissait de lui. « Bonjour, je suis Shari Rampoulin. » Le cœur de Jek s'emballa.
« Le Mahdi des Imlias ?
Tu es seul ici ? Où est ma mère, Afikit ? Où est son enfant que je ne connais pas ? Où sont les pèlerins ?» Le jeune Andjorien se releva et, à coups de phrases heurtées et de mots hésitants, lui raconta ce qu'il était advenu d'Afikit, de Yel et de ses 2 amis Gersalemin.
« Et Srilumpa est parti affronter le Blouf, »
conclut-il. Shari descendit jusqu'au sol, sortit du rayon lumineux, s'avança vers lui et lui posa la main sur le crâne. Une chaleur intense se diffusa dans tout son corps. « Ils ne sont pas morts, c'est l'essentiel. Je vais t'apprendre à voyager sur les pensées et nous irons les délivrer. Mais avant, je t'emmènerai voir ma douce Oniki et mon enfant sur la planète Efren. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les embrasser. Leur aide m'a été précieuse pour entrer dans le temple de lumière. L'Hyponéros, celui que tu appelles le Blouf, est encore plus terrible que tu ne crois. Il ne mange pas seulement les étoiles. Il ronge la conscience même des hommes qui les créent. Quant à Srilumpa, mon père Tixou, je sais quel terrible sacrifice les humanités ont exigé de lui. Je l'ai lu dans les annales indiques. Elles sont d'une incroyable beauté. Je t'emmènerai un jour les contempler. Comment t'appelles-tu?
Jek. Jek Atskin.
Eh bien, Jek Atskin, que dirais-tu de commencer ton apprentissage tout de suite? Les larmes qui coulaient des yeux de Jack étaient maintenant des larmes de joie.